de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Ce soir, vous êtes avec moi Audrey et je suis très heureux de vous retrouver à l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta de RRI World Service Voice of Indonesia. Je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour l'édition de jeudi, le 19 mars 2020. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes et bientôt nous allons commencer avec le journal d'aujourd'hui. Le commentaire et d'autres infos, entre autres l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur, des chansons indonésiennes et magazine musical. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 et 4750 kHz. Et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez maintenant la voix de l'Indonésie avec le journal. Je vais vous présenter quelques événements importants d'aujourd'hui, entre autres la pandémie de corona, 475 morts en une journée en Italie. Le personnel présidentiel, la fermeture du tourisme doit s'accompagner de l'éducation. L'Indonésie a interdit l'entrée des voyageurs de 8 pays. Taïwan demande un soutien pour participer en tant d'observateur à l'OMS. On demande au gouvernement de cesser d'exporter des concentrés pour obtenir une valeur ajoutée. Resserrer les étrangers entre en Indonésie, a déclaré les membres du Parlement. Et coronavirus en France, bilan du premier jour de confinement. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. La pandémie de corona, 475 morts en une journée en Italie. Mercredi 18 mars, le gouvernement d'Italie a fait état des 475 derniers décès dus au coronavirus. Ce montant fait un nouveau record du plus haut nombre de décès dus à la coronavirus en une journée. Cité par l'AFP jeudi 19 mars, le total des décès en Italie a désormais atteint de 978 cas. Le nombre fait partie du nombre total de personnes positives infectées par le coronavirus qui a atteint 35 713 cas. Ce nombre de décès en Italie représente la moitié de tous les décès dans des pays autres que la Chine. Il est connu d'après les données des universités Johns Hopkins que jusqu'à mercredi 18 mars après-midi, le coronavirus COVID-19 a infecté 201 436 personnes dans 156 pays et territoires, alors que le nombre de patients déclarés guéris a atteint 82 032. Le personnel présidentiel, la fermeture du tourisme doit s'accompagner de l'éducation. Le personnel expert principal du bureau présidentiel KSP, Dr. Brian Sri Prastuti, a déclaré que la fermeture du tourisme dans la région, dans le cadre des efforts visant à empêcher la transmission de COVID-19, est jugée appropriée. mais la décision doit s'accompagner d'une éducation des citoyens. Cela a été dit par Sri lors d'une conférence de presse conjointe avec l'officier de manutention COVID-19 au bureau de Graham NPB Jakarta mercredi. Si la communauté est bien éduquée, alors elle comprend que la fermeture des attractions touristiques dans le cadre des efforts vise à empêcher la propagation du COVID-19. Ainsi, les citoyens peuvent soutenir les efforts du gouvernement et le respect de cette politique. Il a déclaré que la fermeture de la zone touristique soutiendrait également l'efficacité des politiques de distanciation sociale dans un effort pour briser la propagation du coronavirus. L'Indonésie a interdit l'entrée des voyageurs de 8 pays. Observant le développement du virus corona ou COVID-19 qui a été infecté dans de nombreux pays, le gouvernement indonésien interdit l'arrivée, le transit des voyageurs de 8 pays, à savoir l'Iran, l'Italie, le Vatican, l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni. L'interdiction d'entrée de 36 en Indonésie est également imposée aux voyageurs qui ont visité ces pays au cours des 14 derniers jours. En plus de ces politiques, des politiques spécifiques impliquant plusieurs pays comme la Chine et la Corée du Sud, en particulier la ville de Daegu et la province de Gyeongsangbuk-do, sont toujours en vigueur. La politique supplémentaire a été annoncée mardi 17 mars par la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi. À l'exception des touristes de ce pays, tous les participants sont tenus de remplir et de soumettre une carte d'alerte sanitaire au bureau de santé du port avant leur arrivée à l'entrée de l'aéroport international d'Indonésie. Taïwan demande un soutien pour participer en tant qu'observateur à l'OMS. Taïwan demande l'appui de pays du monde, y compris l'Indonésie, pour pouvoir participer en tant qu'observateur à diverses réunions de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans le cadre des efforts visant à lutter contre la pandémie du nouveau type de coronavirus COVID-19. C'était une déclaration écrite du Bureau économique et commercial de Taïwan, TETO, à Jakarta récemment. Jusqu'à présent, le secrétariat de l'OMS a seulement accepté et autorisé les experts de Taïwan à participer en ligne avec un statut individuel. Le gouvernement taïwanais a affirmé que face à un nouveau type de virus corona menaçant, la communauté internationale doit renforcer la coopération et renforcer le système mondial de prévention de la santé de la communauté mondiale. Après la survenue de l'épidémie de COVID-19, Taïwan a périodiquement continué à signaler l'évolution des cas dans ce pays. En outre, Taïwan signale régulièrement les cas confirmés par le biais du règlement sanitaire international RSI à Contract Window, désigné par le secrétariat de l'OMS. On demande au gouvernement de cesser d'exporter des concentrés pour obtenir une valeur ajoutée. On demande au gouvernement d'arrêter immédiatement les licences liées à l'exportation des concentrés miniers afin d'augmenter la valeur ajoutée de la transformation des produits miniers pour qu'ils puissent augmenter la valeur des exportations tout en créant plus d'emplois dans le pays. Cela a été dit par un membre de la commission 7 du Parlement, Mulyanto, dans un communiqué publié mercredi à Jakarta. Il a rappelé que tout était réglementé par la loi numéro 4 de 2009 concernant les minéraux et le charbon et les réglementations gouvernementales, y compris en ce qui concerne la période d'indemnisation pour la mise en œuvre de la politique. Selon Mulyanto, la politique d'arrêt des exportations conformément à la loi, il ne semble pas sérieusement à faire. Plusieurs fois, il existe des réglementations qui autorisent l'extension des exportations des concentrés. Selon les données du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales SDM, la production de cuivre en 2019 a atteint 176 400 tonnes, en baisse par rapport à celle de 2018 qui a atteint 230 923 tonnes. Resserrer les étrangers entrent en Indonésie, a déclaré le membre du Parlement. Didik Mukrianto, le membre du Parlement de la Commission 3 de la faction démocratique, estime que le gouvernement devrait adopter une politique de contrôle et de resserrer temporairement l'entrée des étrangers en Indonésie pour le contrôle, la propagation et la manipulation du COVID-19. Il a déclaré dans sa déclaration écrite à Jakarta mercredi que lorsque la pandémie mondiale de COVID-19, y compris l'Indonésie, il n'y avait d'étape et la meilleure façon de prévenir et d'anticiper, sauf de prendre un contrôle mesuré. Il a estimé que toutes les parties ne devraient pas paniquer face à COVID-19, mais le traitement doit être très sérieux et ne doit pas être sous-estimé. Selon lui, les responsables de l'État ne devraient pas sous-estimer et simplifier les informations étroitement liées à la propagation potentielle de COVID-19. Il a déclaré que lorsque le pays et le peuple combattaient sérieusement COVID-19, tout devrait faire preuve d'une vigilance totale et sérieuse, ne facilite pas les problèmes et les éruptions cutanées. Coronavirus en France, bilan du premier jour de confinement. Rue déserte, place était vide partout en France. Dans certaines grandes villes, et les gens faisaient la queue au supermarché. Ceci est une image du premier jour de confinement décrété par le gouvernement Macron. C'est ce qu'a rapporté RFI.fr sur son site internet mercredi le 18 mars 2020. Selon les observations de RFI dans son rapport après-midi, heure locale, mardi le 17 mars, juste au début de l'heure officielle des restrictions de circulation, il y avait encore beaucoup de gens à la gare de la capitale et aux aéroports internationaux qui faisaient de leur mieux pour prendre les trains et les avions qui existaient encore. Ils veulent s'échapper pour retourner dans leur province et pays. Alors que sur presque toutes les autoroutes de France se vidaient lentement tout au long de la journée, plus de 100 000 policiers sont mobilisés pour contrôler le mouvement de la population. Seuls les déplacements importants sont autorisés à passer. Ceux qui violent seront possibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 135 euros. Une autre image peut être vue dans l'utilisation du trafic sur Internet qui a connu une augmentation considérable. La Fédération française des télécommunications invite tous les utilisateurs à avoir une responsabilité numérique pour choisir le Wi-Fi dans la maison afin d'éviter d'endommager le réseau 4G. Chers auditeurs, c'était les nouvelles. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Bonsoir à tous, vous écoutez La Voix de l'Indonésie avec le commentaire d'aujourd'hui, intitulé « L'impact d'une prolongation de la période d'urgence de COVID-19 ». L'Agence nationale de gestion des catastrophes a décidé de prolonger la période d'urgence des catastrophes de la maladie à cause du coronavirus en Indonésie. Cette prolongation du statut d'urgence est valable 91 jours à partir du 29 février 2020 jusqu'au 29 mai 2020. Auparavant, l'Agence nationale indonésienne de gestion des catastrophes a fixé un état d'urgence pour un mois, à savoir du 28 janvier au 28 février 2020. Selon l'Agence nationale indonésienne de gestion des catastrophes, la prolongation de la période d'urgence a été effectuée en raison de la propagation du coronavirus qui s'est répandu de plus en plus et a fait des morts. Ensuite, la propagation de ces virus peut également avoir des implications sur la perte des biens, la psychologie de la société, ainsi que menacer et perturber la vie des gens. D'une part, la prolongation de la période d'urgence de COVID-19 est bien sûr pour le bien de la communauté. À savoir plus que c'est pour que les personnes en bonne santé ne soient pas infectées et que les personnes infectées puissent être soignées jusqu'à leur guérison. La décision a également donné au gouvernement la flexibilité de préparer des hôpitaux à des cas et des fonds opérationnels pour éradiquer les flambées corona. De notre côté, une prolongation du statut d'urgence pourrait déclencher une action pour acheter beaucoup de besoins de base par la communauté avant le Ramadan dans un mois et demi. Cela doit être anticipé par le gouvernement et les partis liés. Il devient une tradition d'année en année que la demande de produits de première nécessité augmente. En fait, juste avant et pendant le Ramadan. Le statut d'urgence de COVID-19 peut déclencher la panique dans la communauté, ce qui encourage alors les achats excessifs de besoins de base et certains utilisent même cette situation pour thésauriser. Il existe un risque de pénurie de produits de première nécessité dans certaines villes en raison de l'achat excessif de personnes. Pour anticiper la pénurie des produits de base dans plusieurs villes avant le mois de Ramadan, le gouvernement doit garantir la disponibilité de denrées alimentaires consommables directement par le public. En plus de garantir l'approvisionnement, le gouvernement doit également anticiper la flambée des prix des produits de première nécessité comme cela s'est produit les années précédentes. Pour maintenir l'approvisionnement et le prix de ces produits de première nécessité, une coordination et une synergie des étapes et des efforts du gouvernement central avec le gouvernement local sont nécessaires, ainsi que les entreprises alimentaires. Chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 29 mars 1932, l'inauguration officielle du pont de Sydney. Harbour Bridge, le pont de Sydney, est la ligne principale pour traverser le pont de Sydney qui relie le central des affaires de Sydney avec la zone au nord de Sydney. Sur le pont, il y a la ligne de chemin de fer, les véhicules automobiles, les bicyclettes et des trottoirs. Avec l'opéra de Sydney, le pont de Sydney est une icône de la ville de Sydney, l'Australie. Selon le livre Guinness des records, c'est le pont le plus large dans le monde, 48,8 mètres, ayant la plus haute arche en acier avec le sommet du pont situé à 134 mètres au-dessous des eaux. C'est aussi le cinquième plus long pont dans le monde. Le pont a été achevé et ouvert le 19 mars 1932. Le 19 mars 1949, une nouvelle constitution de l'Allemagne de l'Est est ratifiée. Le Conseil populaire dans la partie orientale de l'Allemagne, qui est occupée par les soviétiques après la Seconde Guerre mondiale, a ratifié une nouvelle constitution le 19 mars 1949 qui marque la mise en place de la séparation de l'Allemagne. Le statut Allemagne est devenu une source de conflit entre les États-Unis et l'Union soviétique, même avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les soviétiques veulent que l'Allemagne soit désarmée, tandis que les États-Unis, qui commencent à voir les soviétiques comme un rival, avaient l'intention de faire l'Allemagne, qui dispose d'un arsenal complet, comme un pays pro-occidental. Lorsque la guerre mondiale a pris fin en mai 1945, les troupes russes ont occupé une grande partie de l'Allemagne, y compris Berlin. Après des négociations entre les États-Unis et la Russie, la Grande-Bretagne et la France ont approuvé la division des territoires occupés entre les États-Unis et la Russie. La ville de Berlin était divisée en deux. Les Soviétiques occupaient une partie orientale et la partie occidentale occupée par les États-Unis. Le 19 mars 2005, Polycarpus Budihari Prianto, le pilote de Garuda Indonesia, a été officiellement arrêté en tant que suspect dans l'assassinat de l'activiste des droits de l'homme, M. Munir. Il a été nommé suspect depuis le samedi 19 mars 2004. Le meurtre a été fait par empoisonnement. Polycarpus était dans un même avion avec Munir. La police soupçonne qu'il n'est pas le principal suspect, mais seulement comme un facilitateur. La Cour suprême a condamné Polycarpus à 20 ans. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Bilang suka, engkau tersipu malu. Lalu aku bilang sayang, wajahmu merah merona. Lalu harus bagaimana lagi darah, cara untuk mendapatkan diri. Katakanlah saja bila benar-benar cinta, jangan kau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh. Bilang cinta, wajahmu tertunduk ragu. Lalu aku bilang sungguh, sungguh sayang. Lagi-lagi kau membisu. Lalu harus bagaimana lagi jarak, jarak untuk mendapatkan dirimu. Katakanlah saja bila benar-benar cinta, jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar. Katakanlah saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh yeah, hey, oh. Oh 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 yeah, oh 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 yeah, hey, oh. Oh 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 yeah, hey. Lalu harus bagaimana? Katakanlah saja bila benar-benar cinta, jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja.
lah saja. Bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu.
Chers amis, c'était la chanson intitulée Katakan Saja, chantée par Harvey Malaiholo. Je souhaite que vous aimez bien la chanson. Et maintenant, restez toujours avec nous, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le temps pour mon Indonésie. Ce soir, intitulé La forêt primaire de Papouasie occidentale est réduite de 2,1 millions d'hectares. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Vous écoutez maintenant le programme Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie. Vous êtes avec moi, Audrey. Notre Mon Indonésie intitulé La forêt primaire de Papouasie occidentale est réduite de 2,1 millions d'hectares. La province de Papouasie occidentale a perdu 2,1 millions d'hectares de forêt primaire au cours de la période de 28 ans, de 1990 à 2018. Le secrétaire régional de Papouasie-Occidentale, Nathaniel de Mandakan à Monoquari, a déclaré mardi que le gouvernement s'était engagé à mettre en œuvre les résultats d'une conférence internationale sur la biodiversité, l'écotourisme et l'économie créative de Manokwari en octobre 2018. L'un des engagements de la réunion était de préparer 70% des terres des Papouasie-Occidentale en tant que zone forestière. À l'heure actuelle, l'engagement est poussé à être inclus dans les documents provinciaux d'aménagement du territoire. D'après les données du service environnemental de la Papouasie occidentale, la superficie totale de la province est d'environ 10,30 millions d'hectares. De 1990 à 2018, il y avait eu un changement très important du couvert forestier primaire sec d'environ 69,76% à 48,61% de la superficie totale de la province. Selon Nathaniel, d'ici 13 ans, les forêts premières de Papouasie-Occidentale ont le potentiel de disparaître si le gouvernement local ne convient pas de choisir le modèle de développement. Pendant ce temps, le chef du service de l'environnement de Papouasie-Occidentale, Abdul Latif Soueri, a déclaré que son parti et Conservation internationale Indonésie étudient actuellement la couverture estimée de la province de Papouasie-Occidentale en 2033. Il a expliqué que l'analyse était commencée par étudier les données sur les changements forestiers de 1990 à 2018 et faire des prévisions des changements dans les forêts de Papouasie-Occidentale en 2033. Les résultats de la prévision sont ensuite vus avec divers scénarios possibles pour le développement de la Papouasie-Occidentale, tels que 1. Aucune intervention de l'utilisation des terres, les schémas de développement selon le plan spatial régional 2013-2033 et l'approche de développement en prêtant attention aux zones environnementales sensibles. En outre, a-t-il expliqué l'approche de la zone environnementale sensible stipule que 82% des terres de Papouasie-Occidentale doivent être protégées, parce que les résultats de l'étude montrent que pendant la période 1990 et 2018, il y a eu un changement eu une réduction du couvert forestier primaire des zones arides de près de 7 millions d'hectares à près de 5 millions d'hectares. Chers auditeurs, c'est tout mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Chers amis, c'était la deuxième chanson de Nur Afni Octavia, intitulée Sayang. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 et 4750 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel intitulé La plage Lawena de Mulluk. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Retrouvons-nous dans votre rubrique quotidienne, le magazine culturel. Pour l'édition de ce soir, nous vous invitons à visiter la plage de Lawena au Mulluk. Soyez toujours avec nous, la Voix de l'Indonésie, le service international de RRI. Chers auditeurs, la place de Lawena est entourée de sable blanc et d'arbres verts. Pendant ce temps, l'eau de la plage est si transparente et possède une richesse marine. Par conséquent, il convient aux visiteurs qui aiment plonger. Différents types de poissons et de récifs coralliens accueilleront les plongeurs plongeant en mer. Sur la plage, les visiteurs peuvent également déguster de la noix de coco qui pousse autour de la plage. La plage de Lawena est située dans le village de Hutumuri, dans le district du sud de l'île Timor. En fait, la distance entre la ville d'Ambon et la plage n'est pas trop éloignée. Cela peut prendre une heure en véhicule à moteur, car l'itinéraire auquel on accède est montagneux et la route n'est ni plate ni droite. En conséquence, moins de touristes visitent cet objet de tourisme. Chers auditrices et auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Demain, nous nous retrouverons avec un autre sujet plus intéressant encore. Merci beaucoup, à bientôt. Chers auditeurs, c'était la chanson de Groove, intitulée Khayalan. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur, intitulée l'application IME. Bonne écoute.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur ayant pour le titre l'application InMed. L'un des enfants du pays originaire de Malang, Java Est, a lancé une nouvelle avancée dans le domaine des services de santé. Dr. Gamal Albin Said a créé Indonesia Medica ou InMed, une innovation dans l'application de services de santé basée sur Android. Cette application a été créée pour faciliter l'accès des personnes aux services de santé et pour changer la culture des travailleurs de la santé conventionnelle L'application InMed contient 5 services tels que MedVisite ou visite du personnel médical, MedFund ou financement, MedBlood ou transfusion sanguine, MedTalk, consultation et MedFood ou aliments diététiques. Parmi les 5 services ou fonctionnalités de l'application InMed, 2 sont prêtes à être utilisées, à savoir MedVisite et MedTalk. Avec la fonctionnalité MedTalk, les utilisateurs de l'application peuvent contacter un médecin ou psychologue pour faire une consultation. Les utilisateurs peuvent dialoguer en temps réel avec l'agent de santé. Cependant, MedVisite est une fonctionnalité permettant aux patients d'appeler du personnel médical, qu'il s'agisse de médecins, d'infirmières, de sages-femmes, de physiothérapeutes, de nutritionnistes ou de psychologues. Le patient sera visité ou visite à domicile, si bien que les patients ne doivent pas aller à l'hôpital et attendre pendant 2 heures. Les appels du personnel médical ne sont pas autorisés dans les cas d'urgence. En cas d'urgence, il faut immédiatement emmener le patient au service d'urgence de l'hôpital. L'application InMed peut être téléchargée gratuitement sur le Google Play Store, mais l'utilisation de cette application est encore limitée dans la ville Malang. L'application InMed n'est pas seulement destinée aux patients de la classe moyenne supérieure, mais également aux patients des groupes défavorisés. Pour aider les patients pauvres, il existe une source de financement grâce au crowdfunding. C'est à partir de ces sources de financement que les patients peuvent payer du personnel médical. Asitri Rahmanuswantari, la directrice du Bureau de la Santé de la ville Malang, a déclaré que cette application pourrait constituer une solution pour les personnes ayant besoin d'accéder rapidement aux services de santé. Chers auditeurs, c'est l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Kamu kan Voice of Indonesia.
Makin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap harapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Chers amis, c'était la chanson de Cinnamon intitulée Selamanya Cinta. Chers amis, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Pour ce soir, nous vous présentons les chansons de Nick Ardila. Il y a beaucoup d'histoires de cette chanteuse. Vous allez écouter. Bonne écoute.
Voice of Indonesia avec le magazine musical. Cette édition présente une chanson de Nick Ardila. Pour commencer sa carrière de chanteuse professionnelle, elle a sorti un album intitulé « Seberkas Sinar » en 1989. Cela a fait connaître au public le nom de Nick Ardila. L'album de genre slow rock produit par Deddy Dores pouvait se vendre à 500 000 exemplaires à cette époque. Non seulement ça, à la fin de 1989, son album intitulé « Bintang Kehidupan » ou en français « L'étoile de la vie » a également remporté un succès, même dans la région de l'Asie du Sud-Est. La chanson par intitulée « Bintang Kehidupan » ou en français « L'étoile de la vie » a été créée par Deddy Dores. Cette chanson parle de quelqu'un qui est seul parce qu'elle ne croit plus en l'amour. Mais elle croit qu'un jour, quelqu'un viendra à lui, ce qui le rendra heureux en tant que l'étoile de la vie. Mon cher auditeur, écoutons la chanson intitulée « Bintang Kehidupan » qui signifie « L'étoile de la vie » chantée par Nick Ardila.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci beaucoup d'être toujours fidèle avec nous. N'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voi Indonesia. Et pour les informations plus détaillées, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.